Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter une sorte de contre-champ intime de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. L'attentat tel qu'il a été vécu par Chloé Verlac, la femme du dessinateur Tinius, une histoire que je tire de son livre chez Plomb, « Si tu meurs, je te tue ». Initialement, j'avais prévu de vous raconter cette histoire, évidemment, au moment du triste anniversaire, c'est-à-dire début janvier. Et puis je m'étais dit, c'est trop douloureux. Et puis j'ai échangé des mails avec Chloé Verlac. Elle m'a dit qu'elle assumait et qu'elle tenait à ce que je raconte son histoire. La voici donc, Simon Veil m'a aidé à l'écrire, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 7 janvier 2015, c'était un mercredi, le premier mercredi après les vacances de Noël et aussi le premier jour des soldes. Comme tous les mercredis, Tinius s'était réveillé tôt, vers 5 heures. C'était le jour de sa conférence de rédaction à Charlie. Il était dans son bureau en train de finir ses dessins, en retard, comme tous les mercredis. J'ai réveillé les enfants, je les ai habillés, je leur ai préparé le petit déjeuner. Ce matin, c'est lui qui les amène à l'école, comme tous les mercredis. Eh ben moi, quand tu seras parti, ben je crois que je vais me remettre au lit. Et après, je ferai les soldes sur Internet. C'est ça. Et après, tu vas m'expliquer comment tu économises de l'argent alors que tu en dépenses. Sinon, mon amour, tu peux me prendre des slims. Des slims noirs. J'en ai plus. Dire que j'ai récupéré un mec qui mettait des jeans trop larges et des pulls en peau de nounours. Et maintenant, il met des slims super sexy. Ce matin-là, il m'a embrassé longuement. À tout à l'heure! Et il est sorti, avec les enfants. Je suis allé à la porte-fenêtre, on fait toujours ça pour se dire au revoir. On écarte les bras autant qu'on peut pour dire qu'on s'aime, grand comme ça. Il m'a regardé, il m'a souri, il m'a fait un doigt d'honneur en riant, il m'a fait un cœur avec la main, et il m'a envoyé un bisou, et je le lui ai rendu. Il a refermé le portail. C'est marrant, hein? Je lui ai toujours demandé qu'on se dise vraiment bonjour et vraiment au revoir. Je disais, on sait jamais. On sait jamais quoi. C'est la dernière fois que je l'ai vu. À 11h moins le quart, il m'a téléphoné pour une histoire de clé.
Ok. On fait comme ça tout à l'heure, ma princesse. J'y retourne.
C'est la dernière fois que je l'ai entendu. J'ai fait mes achats en ligne. J'espère que le pantalon que je lui ai choisi lui ira bien. Et puis, je vais chercher les enfants à l'école. On va déjeuner tous ensemble. Tinius nous rejoindra après sa réunion. À 11h32, sur le chemin, je reçois un appel de son cousin, Eric.
Eric ? Ah, ça fait longtemps, bonne année.
Merci. Chloé, t'as des nouvelles de Tinius? Il y a eu une fusillade à Charlie. J'en sais pas plus, j'arrive pas à le joindre.
J'accuse le coup, mais disons de façon raisonnée. Moi, je pense à une fusillade sur la façade. J'appelle Tinius.
Pas de réponse. Je le rappelle, pas de réponse. Je le rappelle encore, pas de réponse. Et là, j'arrive dans la cour de l'école.
Oh, Chloé, bonne année.
Merci.
Mais j'arrive pas à joindre Tinius, il y a eu une fusillade à Charlie. Oh, Chloé, bonne année.
Il ne m'écoute pas. Je récupère Solal, il me sourit. Je récupère Sarah Lou à l'école élémentaire, juste à côté. J'appelle encore Tinius. Pas de réponse. Dans la voiture, j'explique aux enfants.
Les enfants, il y a eu un accident au travail de papa. J'essaye de l'appeler, hein.
J'appelle Charb, pas de réponse. J'appelle Luce, pas de réponse. J'appelle Patrick Pelou, pas de réponse. Et là, je fais le numéro de Coco.
Allô ? Chloé ? Viens vite, je sais pas s'il est encore vivant.
J'explique aux enfants que l'accident de papa est grave, qu'il va falloir que j'y aille. Je les dépose chez une amie.
Ah non, Chloé, tu peux pas conduire, hein? Je t'emmène.
Et on fonce vers le journal. Dans la voiture, on allume la radio, bien sûr.
On va tout de suite aller en direct sur place. On est en ligne avec Martin Boudot. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste dans une boîte de production.
Et puis Laetitia qui conduit, qui coupe l'autoradio.
Même locaux que Charlie Hebdo.
Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme, Chloé. Je sais pas. On m'a pas dit qu'il est mort, mais tant qu'on me l'a pas dit officiellement, ben, j'ai espoir qu'il est vivant. À l'approche du boulevard Richard Lenoir, tout est bloqué. Je finis seul à pied. Les abords sont verrouillés par la police. Bonjour. Je suis la femme du dessinateur Tignus. J'ai deux enfants en bas âge. Je veux savoir s'il est vivant. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Non. Non, il a des ordres. Finalement, un policier consent à m'accompagner. Moi, je cours. Lui marche d'une nonchalance exaspérante. Et à chaque barrage, il faut répéter. Je suis la femme du dessinateur Tignus. J'ai deux enfants en bas âge. Je veux savoir s'il est vivant. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Quand j'arrive aux abords du lieu du drame, c'est le chaos. Des ambulances, des camions de pompiers, des voitures de police, des cars régis, les éclats argentés des couvertures de survie, des ombres, des fourmis. Impossible d'entrer dans Charlie. On me désigne une place, là, à côté d'un camion de pompiers. Reste calme, Chloé. Si tu craques, on va te reléguer dans la catégorie des femmes hystériques. On voudra plus te parler. Alors que si j'ai l'air de me maîtriser, ils me parleront. Ils me diront la vérité. Les minutes se transforment en heures. Et on me dit on ne sait pas. Et moi sur place, j'en sais moins que ceux qui écoutent la radio. Et soudain, dans la cohue, j'aperçois l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Je le vois franchir sans problème un cordon de sécurité. Richard ! Richard, ils veulent pas me laisser passer ! Il me fait signe qu'il peut rien faire. Il n'essaye même pas. Je suis furieuse. Et mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ah, c'est Marie. La fille aînée de Tignus. Elle va me rejoindre. Elle arrive quelques minutes après en scooter. Et après, je sais plus qui nous fait passer, mais il faut encore se battre pour entrer dans le hall du Comédie Bastille, un petit théâtre devenu le quartier général des secours. Je suis la femme du dessinateur Tignus. Je voudrais savoir s'il est vivant ou blessé. Un professeur du SAMU me prend par les épaules. Il me regarde droit dans les yeux. Pour l'instant, on peut pas vous répondre, madame. Et là, une infirmière de la Croix-Rouge, affligée par tant de lâcheté, s'adresse à lui. « Mais dites-le lui, enfin ! Enfin, c'est insupportable ! Il est mort ? C'est ça, répondez-moi, je vous en supplie, il est mort ? Il est mort ?» Il me regarde, mais il ne me répond pas. Et là, je tourne la tête, et dans le fouillis de la salle, j'aperçois Luce, effondrée, qui hoche la tête. Il est mort! Et personne n'a eu le courage de verbaliser, personne! Cette phrase terrible, il est mort, c'est moi qui la prononce, moi seul. Je ne m'entends pas hurler, mais je hurle à mort. Un cri qui me déchire, qui me terrasse. Et je m'effondre sur le sol. Et Marie aussi. Et je vois tout le monde bouger au ralenti. Les bruits sont sourds. Je me suis réfugié dans une bulle. Le théâtre, un semblant d'organisation se met en place. Les gens du théâtre ont installé des tréteaux, ils proposent du thé, des jus de fruits, des gâteaux. Des gens de la protection civile référencent ceux qui sont là. On leur met des étiquettes autour du cou, on leur donne des couvertures de survie. Mais pas à moi. Personne n'est là pour nous accueillir, Marie, la fille de Tignoux, son copain Valentin et moi. On ne prend pas nos noms, on ne nous dit pas ce qu'on doit faire. On est dans l'improvisation, l'événement sort des normes. Il nous dépasse tous. Alors, je me pelotonne dans une travée contre le mur. Les tuyaux du chauffage me broient le bas du dos. Ça me fait mal, mais je m'en fous. Tignoux est mort. Tignoux est mort, c'est irréel. J'appelle mon papa qui habite dans le Berry. Il est mort, papa. Il est mort.
Je sais, ma puce. Je sais, j'arrive, je suis déjà en route avec Catherine. Je t'aime.
Et après, j'appelle ma mère qui a récupéré nos enfants, Solal et Sarah Lou.
Maman, surtout tu ne pleures pas. Il est mort. Tu ne pleures pas, maman, tu ne pleures pas.
D'accord, mon amour, d'accord. Je ne pleure pas, je ne pleure pas, je te promets.
Tu ne leur dis rien, hein? Je leur parlerai en rentrant.
Oui, mon amour, je t'aime.
Dans la salle du Comédie Bastille, Coco, dessinatrice à Charlie qui a survécu, est là, enveloppée dans une couverture de survie dorée. Je m'approche d'elle. Elle est mon lien avec Tignoux.
Je suis désolé, Chloé. C'est moi qui ai ouvert la porte. J'ai tapé le code. C'est moi qui ai ouvert la porte.
Je m'entends lui répondre que j'aurais fait la même chose. Parce que je suis bienveillante, parce qu'elle est dévastée, parce que je l'aimais. Même si aujourd'hui... je peux rien lui pardonner. Rien. C'est peut-être pas juste, hein. Mais je ne peux pas. J'ai la langue qui me colle au palais. J'ai la bouche sèche. Une infirmière le remarque. C'est l'effet de l'adrénaline. Attendez, je vais vous donner une bouteille d'eau. C'est le premier petit geste de solidarité. Ça me fait beaucoup de bien. Et là arrive un psychiatre bénévole, Henri, qu'avec Marie on appelle tout de suite Moustache. Il est le premier à venir vers moi, à m'écouter, à me prendre en compte. On parle un peu, je me rappelle plus bien, mais il est direct. Dans ses questions, dans ses réponses, il est direct. Et moi, à cet instant, je pense à me laisser mourir. Et lui, il me secoue, il me dit que je vais vivre. Je ne sais rien de ce qui se passe à l'extérieur. L'arrivée de François Hollande, de Manuel Valls, la traque de deux ou trois tueurs, on hésite encore. Mon événement à moi, c'est l'arrivée de Jeanne, la cadette de Tignoux, avec sa mère. Vers 16h, la petite assemblée du théâtre commence à bouger. Il est question de déplacer le QG de crise à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Mais personne ne nous dit rien. On passe sous les radars. Moi, ce que je voudrais, c'est rentrer chez moi. Je voudrais prendre Solal et Sarah Lou dans mes bras. Et dans la salle qui se vide, je tombe sur Patrick Pelou.
Tu devrais aller à l'Hôtel-Dieu, Chloé.
Mais Patrick, il faut que je rentre parler à mes enfants.
Surtout, tu pars pas seul, hein. On va trouver un psychologue pour t'aider à leur parler, hein.
Tu pars pas seul, hein.
Je le lui promets. Et puis dans le mouvement de la salle, je le perds de vue. On suit des gens jusqu'à une cour. Je me souviens plus dans quelle voiture on a finalement embarqué pour l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu, je
retrouve soulagé Patrick Peloux. Les psychologues et les médecins qui nous reçoivent nous séparent en deux groupes. D'un côté, les rescapés de Charlie, et de l'autre, les proches. Et Marie et moi, on se retrouve avec la fille unique d'Honoré et la compagne de Bernard Maris. Le psy qui nous écoute est d'une incompétence totale. Il est hors sol, presque ridicule, tout à fait inadapté. Avec Marie, on se regarde, on est prise d'un rire nerveux. Heureusement, on retrouve Moustache. Ah, je vous cherchais. Faut qu'on parle, venez. On se met dans un petit bureau. Et il m'écoute pendant une heure. Il est tranchant, presque brutal, mais il m'aide à m'accrocher à la vie. Et en partant, la main sur la porte, il me dit « Je me fais pas de soucis pour vous, hein. Vous allez tenir debout. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un esprit de résilience comme le vôtre. Hein ? C'est parce que vous connaissez pas ma mamie Paula ? C'est ma grand-mère, rescapée des camps. Les mots de Moustache, en tout cas, m'ont sauvé la vie, je crois. C'est une goutte de plomb qui a rétabli l'équilibre. » J'insiste pour que des spécialistes me raccompagnent, comme me l'a conseillé Patrick Peloux. Deux bénévoles de la Croix-Rouge se proposent, et donc nous rejoignons Montreuil. Quand on arrive à Montreuil, il y a bien une centaine de personnes chez nous, dans la maison. Mes parents, des amis, des voisins. Je m'écarte rapidement avec Marie, une des filles de la Croix-Rouge, et Sarah Lou, 9 ans et demi. On se réfugie dans ma chambre. Je veux lui parler, la première. Je sais qu'elle a compris. Elle pleure. Pas longtemps.
Je sais, maman. C'est plutôt à Solal qu'il faut expliquer maintenant.
Marie va donc chercher Solal, 5 ans.
Voilà, mon chéri. Papa a eu un accident très grave. Il va pas se réveiller. Il rentrera pas. Mais il est mort. En fait, c'est comme si il s'était endormi, hein, qu'il allait pas se réveiller. Il est mort. Oui. Il est mort. Bon, ben, il faut que tu te trouves un nouveau mari, alors. Mais un gentil, hein.
Solal ne pleure pas. Il ne pleurera pas pendant au moins 1 an et demi. La colère froide et durable de ce petit garçon est impressionnante. Et puis, il a fallu dormir. Mais dormir où ? Je ne peux pas dormir dans notre lit. Je ne veux plus entrer dans cette pièce. Je me dis... Je vais dormir dans le canapé, là, même pas convertible du salon. Mais Sarah Lou et Solal ont voulu dormir avec moi dans notre lit. Comment leur dire non ? Ils se sont collés à moi. Et je me suis endormi en les écoutant respirer. On a dormi pendant des semaines, en vrac, comme ça, accrochés à ce matelas, comme des naufragés. J'ai compris une chose. Tignous, pour l'instant, ne m'appartient plus. Il appartient à la nation. Le chagrin est collectif. Les gens ont besoin de vivre ce deuil ensemble. Je ne peux pas garder Tignous pour moi. Il faut le partager. Et j'ai donc décidé que ses obsèques seraient publiques. La responsable des pompes funèbres est là, à la maison.
Madame, les délais sont un peu courts, mais vous savez, pour vous, je peux avoir un cercueil en laquais blanc.
Quelle horreur! Je sais pas si j'ai ri, mais moi j'ai une autre idée. Je veux un cercueil en bois, en vrai bois, en bois d'arbre, en chêne même. Brut, sans vernis, pour que les copains puissent dessiner dessus. Tignous disait qu'il dessinait parce qu'il ne savait pas s'exprimer en mots. Alors comment ses amis dessinateurs pourraient-ils lui dire au revoir avec des mots ?
ils vont dessiner sur le cercueil. Ce sera comme était Tignos. Irrévérencieux. Et classe. Les obsèques ont lieu à la mairie de Montreuil, dans la salle des mariages, celle-là même où nous nous sommes mariés. La mairie s'est occupée de tout. Solal ne veut pas venir dans la grande salle. Il passe la tête, il regarde les amis de son père qui dessinent sur le cercueil. Il fait demi-tour. Alors je vais écrire pour lui. Il n'y a pas beaucoup de place hein, parmi les dessins. Alors j'écris sur la plaque. Où est gravé son nom? Personne n'a osé le faire. Mais Tignous disait de Solal que c'était un punk. Et puis Sarah Lou arrive, digne et triste. Elle écrit elle-même. Et elle repart. Coco, de l'équipe de Charlie, prononce quelques mots.
Montignous, notre journal va vivre. On continuera sur la même ligne, comme on l'a toujours fait. On se laissera pas emmerder par tous ces cons de tous bords, ces fachos, ces cubénis, et j'en passe. T'avais jamais peur, mon Titi? Rassure-toi, nous non plus.
Moi aussi, je parle. Je n'ai rien préparé.
Toute ma vie de femme, c'est lui. C'est ma plus belle histoire d'amour. C'était un mec merveilleux, un bon mari, un bon amant. C'était un papa extraordinaire. Il a fait de deux familles une seule famille. Je vous aime tous, Marie, Jeanne, Sarah Lou, Solal.
Et après, Christiane Taubira rappelle l'essentiel et cite Paul Éluard.
La lumière partout est tout près de s'éteindre. Mais le printemps est là, qui n'en a pas fini. Dimanche, 4 millions de personnes marchèrent. On a dit que ce fut ce 11 janvier, un jour sans mots, parce qu'il n'y eut pas de discours. Il y avait pourtant ces mots inscrits sur des pancartes. Il y avait ces crayons brandis et promettant tant de dessins et tant de mots. Il y avait sans doute surtout, chez chacun, à chaque pas, ces mots de Paul Éluard encore, qui s'adressaient aux compagnons de Tignous et à Tignous lui-même, pour leur dire « Tu rêvais d'être libre, et je te continue. Tu rêvais d'être libre, et je te continue. »
Je suis heureuse que Tignous reçoive un hommage aussi humaniste, aussi intelligent. Et après, Christophe à l'évêque a chanté.
Aujourd'hui, nous avons un genou à terre, mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir les deux. On ne sait jamais, on pourrait se mettre à prier. Elle est pour toi, celle-là. Alors, chantons.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 manina. Mi son svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano.
J'ai voulu savoir comment il était mort. A-t-il eu le temps de penser à nous? A-t-il eu peur? A-t-il dit quelque chose? A-t-il souffert? Combien de balles? Je ne me suis porté partie civile que pour cette unique raison. Je veux avoir accès au rapport d'autopsie. Le procès ne m'intéresse pas, même leur cavale ne m'a pas intéressé. Mon avocat, Antoine Comte, n'a pas voulu pour me protéger que je lise le rapport d'autopsie. Il l'a lu pour moi. Tignous a été abattu d'une balle dans la tête, entrée derrière l'oreille gauche, à bout portant, à moins de 10 centimètres, une seule et unique balle. Tignous a été exécuté. et il est mort en héros. Il est mort son feutre à la main. Il ne l'a pas lâché. J'ai tiré cette histoire du livre de Chloé Verlac chez Plon. Si tu meurs, je te tue.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.